Bienvenue sur RFI, si vous nous rejoignez, il est 5h à Paris, 3h en temps universel.
Sophie Pouzrat.
À la une de l'actualité internationale, Vladimir Poutine dit vouloir reprendre les négociations directes avec l'Ukraine. Le président russe propose à Kiev des discussions jeudi prochain à Istanbul, plus de 2 ans après la fin des dernières rencontres de pourparlers entre les deux pays. Et alors que les alliés de l'Ukraine réclament un cessez-le-feu à Moscou. Un cessez-le-feu établi entre l'Inde et le Pakistan, mais que les deux pays s'accusent mutuellement de bafouer. La défense antiaérienne est entrée en action dans le Cachemire indien, mais Islamabad a su respecter la trêve. À la une également, en RDC, une centaine de personnes ont péri suite aux inondations dans le village de Kazaba, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Après plus de 2 ans sans pourparlers directs, Moscou veut revenir s'asseoir à la table des négociations. C'est ce que Vladimir Poutine propose. Des discussions directes avec l'Ukraine, sans conditions préalables, selon le président russe, qui propose même la date et l'heure. Jeudi prochain, à Istanbul, là où les dernières négociations directes entre les deux pays ont eu lieu en fin d'année 2022. Et pour ce faire, Vladimir Poutine annonce qu'il va s'entretenir avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
Au terme d'une vingtaine d'entretiens bilatéraux avec les dirigeants qui s'étaient rendus à Moscou pour les célébrations du 9 mai, Vladimir Poutine s'est livré à une allocution d'une vingtaine de minutes devant des journalistes russes et étrangers triés sur le volet. L'occasion pour lui de faire une contre-proposition à la trêve de 30 jours exigée par Kiev et ses alliés occidentaux sous peine de nouvelles sanctions. Vladimir Poutine.
Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations que nous avons tentées avec elles sans délai à Istanbul le 15 mai, déjà là où elles se sont déroulées à l'époque et là où elles ont été interrompues.
Des négociations directes donc, mais pas de cessez-le-feu. Pour justifier ce refus, le président russe a invoqué les 5000 violations des trêves proposées par Moscou, que ce soit sur les infrastructures énergétiques, à Pâques ou pour ses célébrations de la victoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste insensible aux pressions occidentales.
Notre proposition est sur la table. La réponse dépend maintenant du pouvoir ukrainien. Je le répète, la Russie est prête à négocier sans conditions préalables.
Reste à savoir concrètement sur quoi Kiev et Moscou sont prêts à négocier. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
À noter que les alliés de Kiev n'ont pour l'instant pas réagi à cette proposition du Kremlin. Un cessez-le-feu fragile est déjà rompu entre l'Inde et le Pakistan. En tout cas, les deux pays s'accusent mutuellement de violer la trêve quelques heures à peine après son entrée en vigueur hier. Des détonations ont résonné dans le Cachemire indien hier soir où la défense antiaérienne est entrée en action. Mais de son côté, Islamabad a assuré maintenir son engagement dans la trêve comme convenu. Cette trêve, elle intervient, on le rappelle, après 4 jours d'affrontements et d'attaques de missiles et de drones entre les deux voisins, alors qu'à l'international, les appels au calme et au maintien du dialogue se poursuivent. Dans l'actualité africaine à présent, en RDC, une centaine de personnes ont péri suite aux inondations dans le village de Kasaba, en territoire de Fizi au sud Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'il pleuvait abondamment dans ce village situé au bord du lac Tanganyika. Vincent Dublange.
Oui, les pluies torrentielles ont provoqué la crue des rivières Kasaba et Bekia. Le village de Kasaba a été inondé, des éboulements ont été rapportés. Sami Kalonji est l'administrateur du territoire de Fizi. Ses équipes sont déployées sur le terrain.
Nous avons plus de 110 corps qui gisent au sol. 850 personnes sont sans abri, 150 maisons se sont écroulées et nous avons plus de 40 blessés suite à ces catastrophes naturelles. Le bilan reste provisoire car les recherches et le fouilles continuent toujours.
Alors cette inondation meurtrière à Kasaba survient alors que la guerre se poursuit entre les forces congolaises et la FCM-23 soutenue par le Rwanda. Le président de la société civile locale de Fizi, Jacques Alimassi, demande aux belligérants de ne pas entraver la circulation des secours.
Cette population passe la nuit à la belle étoile, ils n'ont pas de vivres. C'est pourquoi nous avions plaidé encore auprès des autorités ou les parties prenantes qui interviennent dans les domaines de sécurité, de pouvoir faciliter les couloirs humanitaires afin que les dons arrivent auprès de ces sinistrés.
Et dans un communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Uvira, indique qu'une équipe a été dépêchée en urgence à Kasaba pour évaluer la situation.
Merci beaucoup Vincent Dublange. Pékin et Washington de retour à la table des négociations ce dimanche, nouvelle journée de discussion qui s'ouvre en Suisse à Genève entre les deux grandes puissances pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale qui les oppose. Au menu des discussions, les droits de douane imposé par Donald Trump sur les produits chinois. Le président américain s'est d'ailleurs réjoui de la première journée de pourparlers hier. Il évoque des grands progrès et une réinitialisation totale des rapports commerciaux avec la Chine, sans donner plus de détails. À Gaza, le Hamas a diffusé une vidéo montrant deux otages israéliens en vie dans laquelle l'un d'eux appelle à mettre fin à la guerre. Si la vidéo n'est pas datée, en Israël, le Forum des familles, la plus grande association des proches d'otages, a identifié les deux hommes. Il s'agit de deux festivaliers qui ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Selon l'armée israélienne, 58 otages sont encore détenus à Gaza, dont 34 morts, toujours dans l'enclave. De nouvelles frappes israéliennes ont fait 15 morts hier, selon la défense civile palestinienne. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le conflit a fait près de 53 000 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils. Léon XIV prend ses marques au Vatican. Le nouveau pape doit apparaître place Saint-Pierre ce dimanche pour la très attendue et traditionnelle prière dominicale depuis le balcon de la basilique, sa première en tant que souverain pontife. Avant ça, le nouveau chef des catholiques s'est recueilli hier sur la tombe de son prédécesseur François et il a aussi longuement rencontré les cardinaux au Vatican pour les remercier de leur confiance et les inviter à l'aider dans sa tâche et dévoiler les axes de sa mission pastorale à venir. Les précisions de notre correspondant sur place, Eric Sénanc.
En recevant les cardinaux pendant près de deux heures, le nouveau pape est revenu sur le choix du prénom Léon. C'est principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique Rerum Novarum, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle, a-t-il expliqué. Texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum est ainsi considéré comme une feuille de route pour le nouveau pontificat, même si les temps ont changé. Aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail, a encore expliqué Léon XIV. Le nouveau pape compte aussi s'appuyer sur l'héritage de son prédécesseur François, dont il a salué une nouvelle fois la mémoire. Dans la lignée du pape argentin, il a mis en avant quelques priorités pour sa mission à venir, comme la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne ou encore la croissance de la collégialité et de la synodalité. « Je sais que je peux compter sur vous », a lancé le nouveau pape aux cardinaux. « Un réconfort dans l'acceptation d'un fardeau qui est clairement au-dessus de mes forces », a-t-il avoué. Eric Sénanc, Rome, RFI.
Du sport à présent, football, Monaco et Marseille se qualifient pour la Ligue des Champions. Le club monégasque a remporté un match crucial contre Lyon, une victoire de 2-0 qui lui vaut son billet pour la prochaine compétition européenne. Et malgré les doutes, l'Olympique de Marseille est également parvenu à se qualifier. Hier soir, les Marseillais se sont imposés 3-1 contre le Havre. Toujours sur le volet sportif, en MMA, arts martiaux mix, la combattante française Manon Fiorot défie en ce moment la championne Valentina Shevchenko lors de l'UFC 315 à Montréal, où elle peut devenir la première française à s'emparer d'une ceinture UFC. On referme ce journal en musique. Après une décennie d'EP et d'albums, le chanteur et DJ Anorak présente son quatrième disque, Golden Hour. L'ancien batteur du groupe Pony Pony Run Run s'épanouit encore et toujours sur la scène indie dance et disco française. Lisa Giroldini a écouté ce nouvel album pour nous.
Sur Golden Hour, Frédéric Rivière alias Anorak navigue entre disco et électropop dans un style bien marqué par son passé de musicien dans des groupes indie. Un nouvel album à la croisée des genres entre groove italo et riff inspiré du groupe Chic, entre sonorités électroniques contemporaines et mélodies plus rétro où il n'hésite pas à poser sa voix. Anorak pose un cadre instrumental solaire et dansant comme une invitation à la fête où le rejoignent de nombreux chanteurs français et internationaux, Julia Jean-Baptiste, Fleur de Mur, Yann Wagner ou encore Mouna. Golden Hour est un voyage aux sonorités chaudes sur la route, fenêtre ouverte, direction le soleil couchant.
Et c'est ainsi qu'on termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 5h et presque 10 minutes à Paris, 3h10, en temps universel. Mais faut...